La main à la pâte, un cycle d'émissions proposé par Impact Centre. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Agnès, chargée de sensibilisation au sein de l'association Impact Centre. Impact Centre est une association où nous incitons les élus et citoyens à s'impliquer dans l'agriculture et l'alimentation de leur territoire. Dans chaque émission, je vous emmène à la rencontre d'acteurs qui mettent la main à la pâte pour trouver des solutions qui rendent le milieu agricole et rural plus durable. Dans la précédente émission, nous avons vu les freins et les leviers à la transmission en agriculture, qui étaient notamment l'accompagnement financier et psychologique des cédants, l'appui des collectivités et des associations, la réorientation des aides de la PAC et le vote d'une grande loi foncière. Aujourd'hui, je vais voir les anciens producteurs de la ferme de la Guilbardière à Montoux-sur-Bièvre, dans le Loir-et-Cher, qui ont transmis leur ferme à un collectif de jeunes. Nous allons voir comment s'est déroulée leur transmission. Je suis avec Gilles Guélier et Anne Martin qui ont transmis leur ferme il y a un an et demi. Donc bonjour Gilles et Anne, pouvez-vous vous présenter et nous présenter vos anciennes activités ?
Bonjour, donc moi c'est Gilles Guélier. Je me suis installé sur la ferme de la Guilbardière en 1986 avec la ferme intention de transformer la ferme en bio le plus vite possible. Et de garder un système en polyculture élevage. Pour moi, c'était les deux choses incontournables que je voulais maintenir sur la ferme. Et donc, 9 ans après, Anne est venue me rejoindre.
Donc moi, je me suis installée en 95 et en amenant sur la ferme de l'accueil pédagogique et de la transformation fromagère. Parce qu'avant, on produisait du lait qu'on vendait, mais que du lait, quoi. Donc moi, j'ai amené la transformation fromagère et l'accueil pédagogique. Voilà, et donc on a cédé notre ferme en 2020, début 2020. Donc ça fait maintenant 18 mois qu'on a arrêté toute activité sur la ferme.
D'accord. Et à partir de quand est-ce que vous avez commencé à penser à votre transmission ?
Eh bien, en fait, on a commencé à penser à notre transmission 7 ans avant de la céder complètement.
La première formation qu'on a faite était en 2013.
Voilà. Et là, c'était vraiment pour nous le début de la réflexion. On se disait, il faut qu'on s'y prenne en avance. Mais c'est vraiment au cours d'une première formation avec l'ADAR qu'on a défriché beaucoup la question en se disant que 7 ans avant, c'était bien comme délai. Et effectivement, il ne fallait pas moins parce que c'est quand même très, très long, tout ce processus, trouver des candidats, chiffrer sa ferme, trouver une autre maison. C'est quand même beaucoup, beaucoup de démarches.
D'accord. Et du coup, comment s'est passée la recherche de repreneurs ?
On a mis des petites annonces. Des petites annonces par le réseau ADAR, essentiellement, je pense, Confédération Paysanne, plus le répertoire départ-installation des chambres d'agriculture. Et l'ensemble de toutes ces petites annonces nous ont amené plusieurs couples, mais qui n'ont pas donné suite pour des raisons diverses. N'ont pas donné suite, mais ça nous a permis quand même de bien réfléchir. Il y en a un qui nous a dit, en fait, plutôt que d'attendre que vous partiez à la retraite, on est prêt à reprendre la ferme tout de suite, vous pouvez partir. Et nous, on n'était pas prêts, en fait. On avait encore 2 ans pour avoir la retraite à peu près complète, mais ça, on pouvait éventuellement s'en passer. Mais on n'avait pas chiffré et on n'avait pas, on n'avait pas acheté de maison pour pouvoir trouver un hébergement. En fait, ils sont partis, ils ont compris que c'était une fausse idée qu'ils avaient. Mais voilà, ça nous a bousculé un petit peu pour faire avancer toutes ces questions-là.
Oui, en fait, de rencontrer des candidats, ça permet de se poser les bonnes questions, quoi. Il fallait quand même, pour pouvoir céder sa ferme, il faut avoir bien calé un certain nombre de choses, avoir chiffré, avoir trouvé où on va atterrir, parce que dans une ferme d'élevage, il faut absolument laisser ses bâtiments. Mais au tout début, on s'est dit, les gens vont pouvoir construire quelque chose de l'autre côté, nous, on va garder nos bâtiments. Et tout ça, en fait, c'est pas possible. Donc, pour que céder sa ferme, il faut partir. Et donc, ben, il y a tout un cheminement quand même à faire. Et les premiers candidats étaient, eux, de leur côté, pas très prêts. Mais nous, on n'était pas prêts non plus. Et c'est, ils nous ont permis aussi de cheminer et de voir qu'est-ce qui nous permettrait d'être dans de bonnes conditions pour céder la ferme, quoi.
Et du coup, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu aujourd'hui les personnes qui ont repris votre ferme et comment ça s'est passé avec ce collectif qui est actuellement installé à Montoux?
Eh bien, on a eu des candidats et, qui voulaient reprendre la ferme et qui voulaient les embaucher comme chef de culture. En fait, c'était quelqu'un du réseau Muliez, du réseau Auchan. Et eux se sont rendus compte de ça et ils voulaient absolument pas cette situation-là. Alors on leur dit, ben, si vous voulez pas que ce soit ce genre de reprise, c'est à vous de vous poser la question, quoi. On leur a dit, ça s'est passé à peu près comme ça. Ils ont dit, ben oui, vous avez raison. Donc ils se sont mis à y réfléchir, ils ont passé du temps. Donc c'était des gens qui se connaissaient pas, ils étaient quatre. Ils se connaissaient pas et ils se sont connus sur la ferme. Et donc ils ont réfléchi, ils ont réfléchi à est-ce qu'ils sont capables de travailler ensemble, est-ce que leur motivation pour reprendre la ferme était compatible, leurs différentes motivations individuelles, et est-ce qu'ils étaient capables de trouver une organisation du travail qui satisfaisait les emplois du temps que souhaitait se donner chacun, quoi. Donc ils ont réfléchi pendant, je crois, 18 mois, et ils nous ont donné une réponse. Et ensuite, ils ont repassé encore 18 mois à mettre en place toutes les contraintes, enfin, les relations avec les banques, les relations avec l'administration et tout ça, pour réussir à reprendre concrètement la ferme. Donc aujourd'hui, ils sont quatre associés. Il y en a une cinquième qui travaille en lien avec eux, qui devait éventuellement rentrer dans le GAEC, mais qui n'y rentrera pas. Donc en fait, ils sont cinq. Et... ben, les choses se passent bien, tant en termes de résultats sur la ferme qu'en termes de relations avec nous. Nous, on n'y travaille plus du tout. Quelquefois, ils nous appellent pour un petit coup de main, mais c'est vraiment rare. Ils nous appellent quand ils ont éventuellement des déboires techniques un peu, parce que c'est sans doute le domaine dans lequel ils pêchent, quoi. Ils sont tous très formés en agriculture. Formation théorique, hein, il y en a deux ou trois, il y en a deux qui sont ingénieurs, il y en a une qui est urbaniste, bac plus 5 urbaniste, et puis le troisième qui est bac plus 4 ou 5 aussi. Donc des connaissances théoriques, ils en ont beaucoup. C'est pour ça que la gestion technique de la ferme est bien faite. Il reste les problèmes techniques, c'est-à-dire comment atteler certains outils, comment bien le régler, comment ne pas le casser trop vite, démarrer, faire l'entretien d'une moissonneuse, enfin bon, plein de choses comme ça, quoi. Pour lequel ils font appel à nous. On essaie de répondre à tous ces problèmes, tout ce genre de déboires techniques. Et pour nous, c'est satisfaisant parce que ça veut dire que on n'est pas notre expérience n'était pas ridicule, elle n'était pas inefficace. Ça nous permet d'être assurés.
Alors oui, en fait, ce qui nous a plu quand même dans ce collectif, c'est que on a les mêmes orientations fondamentales. On savait que notre ferme continuerait en agroécologie, enfin la même éthique. Après, il y a des changements, évidemment, mais ce qui nous paraissait, nous, très important, c'est de continuer en agroécologie, que la ferme continue à créer beaucoup d'emplois, continue à être un lieu de vie, voilà. Comme ce fonds-là était vraiment commun avec eux, ça facilitait beaucoup pour nous le fait de leur transmettre, même s'ils ne sont pas d'origine agricole. Et en plus, on trouve qu'il y a une certaine richesse avec des nouvelles idées de gens qui ne sont pas forcément d'origine agricole. On pense que l'agriculture, elle a beaucoup à gagner de s'entourer de gens comme eux, quoi, avec des profils un peu différents de nous qui sommes d'origine agricole, quoi.
Alors, ce qu'on n'a pas précisé, c'est que, en fait, sur la ferme, on travaillait toujours avec des salariés, un ou deux salariés. Et notre salarié principal, voyant la transmission approcher, il a trouvé du travail ailleurs, parce qu'il était un petit peu inquiet de savoir si ça pourrait bien se passer avec des successeurs. Et donc, il a trouvé du travail chez un autre voisin, donc il est parti. Donc, à partir de ce moment-là, les gens qu'on a cherché à embaucher ont souhaité que leur profil corresponde à une potentielle installation. La première personne qu'on a embauchée, il y avait deux candidats et on a choisi Melaine parce que clairement il nous a dit qu'il avait l'intention de s'installer.
Même si c'était en Bretagne au départ, quoi.
Même si le premier projet était en Bretagne, effectivement. Et tous avaient l'intention un jour de s'installer, mais ils ne pensaient pas le faire ici, quoi. Donc ensuite, c'est les événements qui ont fait que s'installer ici devenait possible. C'est aussi lié au souhait de leur conjointe et tout ça. Enfin bon, y a mille raisons. Ça, c'est pas fait. C'était pas obligatoirement très simple, mais voilà, ça s'est fait comme ça. C'est le fait qu'on cherche à embaucher. Je pense que c'est une donnée non négligeable pour des gens qui recherchent des successeurs. S'ils ont la possibilité d'embaucher, ben d'embaucher un peu plus pour déjà moins travailler, parce que quand on arrive en fin de carrière, on a envie de moins travailler. Eh bien, s'ils ont les possibilités d'embaucher des gens, préférer des profils de jeunes qui seraient susceptibles de reprendre la ferme.
D'accord, merci. Du coup, on est quand même sur une transmission assez originale, parce que la plupart du temps, on voit que les transmissions se font plutôt dans le cadre familial et parfois sur voilà, des personnes individuelles. Et là, on a un collectif, en plus hors cadre familial. Donc effectivement, c'est très novateur. Et est-ce que vous avez été accompagné dans votre transmission par des organismes, des formations? Tout à l'heure, vous avez évoqué des formations à l'ADR. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus?
Alors, on a été accompagné quand même pas mal par l'ADR et aussi par la Chambre d'agriculture. Et puis la MSA sur les aspects concrets de retraite. Avec la Chambre d'agriculture, il y a des formations beaucoup plus légères que ce que fait l'ADR, mais qui sont bien intéressantes aussi, et auxquelles moi j'ai participé. Et c'était un échange avec une quinzaine d'agriculteurs, avec tous la recherche de successeurs. Mais faut savoir quand même qu'il n'y a pas forcément toujours beaucoup de candidats pour la reprise des terres. Et c'est quand même pas simple. Par exemple, reprendre une ferme laitière, pour les jeunes qui sont venus chez nous, c'est parce que c'est en collectif. Autrement, ils trouvent que c'est trop de contraintes à reprendre en individuel. Donc ça veut dire quand même qu'il faut s'ouvrir à des possibilités dans nos fermes. Et moi, j'avais trouvé très intéressant la formation aussi avec la chambre. On rencontre des gens pas habituels dans nos réseaux. Alors, la formation avec l'ADR a été assez poussée et vraiment nous a beaucoup aidé dans notre cheminement. Par exemple, en nous faisant mettre... ça a mis en avant le fait qu'il fallait que nous, on trouve nos propres projets pour se détacher de notre ferme. Il fallait qu'on ait nos propres projets pour après, qu'on ait une vie. Et c'est effectivement ce qu'on constate aujourd'hui. On est très, très contents, une grande vie sociale. Parce que si on n'avait pas ça, peut-être que la transmission serait moins bien passée. En fait, pour nous, ben voilà, ça a été une étape. Mais on avait aussi beaucoup de contraintes quand on était en activité. Ça prend quand même beaucoup de temps, une ferme d'élevage. Et là, on peut enfin faire beaucoup de choses. On a redémarré une menuiserie, on aime bien faire de la menuiserie, des choses comme ça, et on s'implique pas mal dans notre village, enfin bon, voilà. Et tout ça, ça permet aussi de faciliter la transmission, parce qu'en fait, pour se mettre dans de bonnes conditions pour transmettre, il faut être heureux et pas vouloir s'accrocher au passé. C'est des étapes à passer.
On a fait trois formations en 7 ans. On a fait trois formations avec l'ADR et sur des approches un peu différentes. Et je pense que c'était assez complémentaire et c'est important. Faut pas s'en priver. On a fait une formation notamment avec une sociologue rurale qui a présenté un peu l'évolution des générations. Et là, on a transmis à une génération Z, je crois que c'est ça. Et donc, en connaissant un petit peu plus les aspirations de la génération Z, on comprenait un peu plus certains de leurs souhaits, quoi. Je pense que ça aide, puis ça permet de comprendre aussi, nous, comment on est pourquoi on réagit comme ça aussi certaines fois. Enfin, c'est passionnant de comprendre tout ça, quoi. Ça permet d'être beaucoup plus ouvert et de comprendre beaucoup mieux
les pratiques recul,
de
quoi.
Chacun, de prendre du recul par rapport à tout ce qui peut se passer.
Est-ce que vous avez rencontré des freins lors de votre transmission ?
Moi, enfin, c'est quand même un processus qui est long. Et c'est vrai que parfois, on se dit « Oh là là, quand est-ce que ça va arriver ?» Moi, j'ai trouvé que c'était un peu long. Et d'autant plus qu'on s'aide à un collectif, parce qu'on pose une question, il faut qu'ils aient le temps de se réunir, d'en parler. Des fois, j'ai trouvé que c'était un peu long pour prendre des décisions. En fait, nous, on a vraiment... on voit ça de manière assez positive, maintenant.
Il faut quand même se donner le temps, parce que... Et là, en 7 ans, c'est un bon temps. Parce qu'on n'avait pas trop d'angoisse quand les premiers couples qui sont venus nous voir et qui, rapidement, ont dit non... ça ne nous a pas inquiété plus que ça, parce qu'on se dit, bon, on a encore le temps, enfin bon, ça aurait pu marcher, peut-être, enfin bref, voilà, on n'était pas trop inquiets, c'était pas stressant, c'était pas affolant, quoi. Ça commençait à le devenir à la fin, mais bon, comme ça s'est bien terminé, ça a été, quoi.
Ok, très bien, merci. Et pour finir, dans la précédente émission, on a vu que si... les agriculteurs qui partaient à la retraite n'étaient pas remplacés au rythme des cessions actuelles, il nous resterait que 100 fermes en région centre dans 25 ans. Donc ce qui est très peu pour 6 départements. Et du coup, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur pourquoi c'était important de transmettre pour vous ? Et est-ce que vous avez un message à faire passer aux autres paysans et agriculteurs de la région ?
Pour nous, c'est très, très satisfaisant. Ça nous permet de passer une retraite de bien meilleure qualité, de savoir que notre ferme, ce qu'on a fait pendant 34 ans, continue avec la même éthique. C'est-à-dire qu'on a essayé d'y mettre un peu nos tripes dans cette ferme quand même. Et de savoir que ça continue sur le même élan, ça permet d'être serein. Chaque matin, on se réveille avec une grande sérénité.
Oui, c'est quand même affreux de voir toutes ces fermes qui s'agrandissent avec du matériel hyper pointu pour réussir à le faire. Nous, on pense vraiment que l'agriculture peut être vraiment une source de travail pour de nombreuses personnes, à condition de valoriser ses produits jusqu'au bout, de faire... C'est aussi l'agriculture bio, celle qui va pouvoir respecter le mieux la terre et résister aux changements climatiques, etc. Et pour nous, c'est tellement... On est tellement mieux à savoir que ça continue... par rapport, ce sera un échec quelque part. Hein, si... Et je pense que les agriculteurs le vivent quand même un peu comme ça quand ils ont pas, quand dans leur cours il n'y a plus de vie, c'est quand même pas très drôle, quoi. Peut-être qu'ils ont réussi à céder à un bon prix leur ferme, mais quand même, le but d'un agriculteur, c'est dans le fond quand même de voir que la vie elle se continue, c'est quand même hyper important, quoi. Et c'est vrai que nous-mêmes, dans nos voisins, je trouve que ceux qui n'ont pas cédé, c'est tristouné. Moi, j'ai eu l'occasion de retourner chez quelques-uns. Il n'y a plus de vie passée d'une ferme où il y avait des animaux, des salariés, etc. Et qu'après, il n'y a pratiquement plus rien. C'est quand même bien tristouné, quoi. Et je pense que nous, c'est le fait que ça se continue et qu'on va à la ferme, c'est très vivant. Il y a toujours plein de monde et tout... nous, ça nous rend vraiment très heureux, quoi. C'est vraiment ce qu'on cherchait. Et je pense que... alors, avec quand même quelques difficultés, hein, faut beaucoup dialoguer. C'est vrai que je pense quand même que c'est ce qui a évité les conflits et tout. C'est de vraiment pouvoir à chaque fois beaucoup discuter. Mais qu'est-ce qu'on est content après, quoi. Voilà, on est vraiment très heureux, quoi.
Non, simplement pour dire que on reste militant et qu'on espère que la dynamique engendrée par la reprise de notre ferme leur permette de s'agrandir encore et d'accueillir de nouveaux associés pour montrer que tout ça, les reprises, le travail collectif, c'est quelque chose de possible.
Très bien, merci pour ce mot de la fin. L'expérience de Gilles et Anne montre qu'il est possible de transmettre, mais qu'il faut beaucoup de temps et qu'il est important de connaître ses propres attentes, celles des repreneurs, et rester ouvert aux compromis. L'émission se termine. Je remercie toutes les personnes qui ont témoigné de leur engagement. N'hésitez pas à les rejoindre. À très vite dans une prochaine émission.